Et je me tourne vers Monique Kerouac. Et Monique, souvent dans vos chroniques, j'apprends des choses que je fais pas correctes.
Je veux surtout pas vous traumatiser, Yvan.
Non, non, mais vous améliorez ma vie constamment.
Ah ben c'est bien, c'est bien.
Alors est-ce que je prends ma douche le matin ou le soir?
Ben voilà, ben, c'est un microbiologiste qui va répondre à ça. Primrose Freestone, qui en fait est maître de conférence à l'université Leicester. Alors il nous dit que c'est une question qui fait débat depuis longtemps. Les adeptes de la douche matinale diront que c'est la meilleure solution parce qu'elle permet de se réveiller puis oui, de commencer la journée en beauté. Les adeptes de la douche nocturne, en revanche, ben, affirment qu'il est préférable de se débarrasser de la journée et de se détendre avant d'aller se coucher. Mais que disent les recherches, Yvan? Ben, en tant que biologiste, Primrose Freestone peut nous dire qu'il existe une réponse claire à cette question. Alors, c'est ce que l'article va nous révéler. Pardon. Mm-hmm. Par ailleurs, avant toute chose, il faut rappeler qu'une bonne hygiène repose en partie sur une douche régulière, peu importe le moment de la journée.
Ah bon?
La douche, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous aide à éliminer la saleté et le sébum de notre peau, contribuant à prévenir les éruptions cutanées et les infections. La douche permet aussi d'éliminer la sueur, ce qui peut atténuer les odeurs corporelles. Alors, contrairement à une idée reçue, la sueur en elle-même n'a pas d'odeur. Ce sont les bactéries présentes sur notre peau, notamment les staphylocoques, qui en sont responsables. Elles utilisent la sueur comme source de nutriments et, en la décomposant, libèrent des composés soufrés appelés thioalcool, à l'origine de cette odeur corporelle âcre bien connue. C'est horrible de se retrouver dans un cinéma derrière une personne qui dégage cette odeur, n'est-ce pas?
C'est un film de 3 heures.
Oui, c'est ça. Alors, pendant la journée, votre corps et vos cheveux recueillent inévitablement des polluants et des allergènes comme la poussière et le pollen. En plus de l'accumulation habituelle de sueur et d'huile sébacée. Si certaines de ces particules seront retenues par nos vêtements, d'autres seront inévitablement transférées vers nos draps et têtes d'oreiller. De plus, la sueur et l'huile produites par notre peau nourrissent les bactéries de notre microbiome cutané qui peuvent ensuite se transférer sur notre literie. Se doucher le soir peut bien sûr éliminer une partie des allergènes, de la sueur et de l'huile accumulée pendant la journée, de sorte qu'il y en a moins sur nos draps de lit. Par ailleurs, même si nous avons pris une douche avant de nous coucher, ben, nous continuons à transpirer pendant la nuit, quelle que soit la température. Les microbes de notre peau se nourrissent alors des nutriments contenus dans cette sueur. Résultat, au matin, ben, nous aurons tout de même laissé des microbes sur nos draps et peut-être un peu d'odeur corporelle.
Vous êtes en train de dire qu'il faut se doucher avant et après de se coucher.
Ben, moi, c'est la conclusion à laquelle j'arrive, mais c'est pas celle de la chercheur. Si nos draps ne sont pas régulièrement lavés, une douche du soir perd alors une partie de son efficacité. Parce que les microbes odorants présents sur le linge peuvent se redéposer sur notre corps propre durant la nuit. Bon, là, il ne faut pas laver nos draps tous les jours, hein, Yvan. D'autre part, se doucher le soir n'empêche pas les cellules mortes de se détacher de notre peau. Ces résidus nourrissent les acariens, dont les déjections peuvent provoquer des allergies ou aggraver l'asthme si les draps sont insuffisamment entretenus. Les douches matinales, en revanche, permettent d'éliminer les cellules mortes de la peau, ainsi que la sueur et les bactéries accumulées dans les draps pendant la nuit. Donc, cela peut s'avérer particulièrement utile si notre literie n'a pas été récemment lavée. Une douche matinale signifie que notre corps sera débarrassé des microbes cutanés accumulés pendant la nuit lorsque nous enfilons des vêtements propres, neufs. Nous commencerons également la journée avec moins de sueur dont se nourrissent les bactéries productrices d'odeur, ce qui nous aidera probablement à sentir plus frais plus longtemps dans la journée que quelqu'un qui s'est douché le soir. Alors, en tant que microbiologiste, Primrose Freestone est favorable à la douche de jour. Cela dit, chacun a ses préférences. Et puis, on pourrait rajouter, Yvan, que tout dépend de la saison aussi, hein? Mm-hmm. Si l'été, il fait très chaud le jour et qu'on a transpiré, peut-être prendrons-nous une douche le soir et le lendemain matin aussi.
Ou à d'autres moments aussi.
Ah ben, tout à fait, tout à fait. quel que soit le moment que nous choisissons, n'oublions pas que l'efficacité de notre douche est influencée par de nombreux aspects de notre hygiène personnelle, comme la fréquence à laquelle nous lavons nos draps. Pour une bonne hygiène, draps et têtes d'oreiller devraient être lavés au moins une fois par semaine. Cela permet d'éliminer la sueur, les cellules mortes, les bactéries et les résidus d'huile qui s'y accumulent. Le lavage élimine aussi les spores de champignons qui peuvent se développer sur le linge de lit, ainsi que les nutriments dont se nourrissent les microbes responsables des mauvaises odeurs. Alors, notre chercheur nous dit le jour, mais c'est à chacun de décider ce qui lui convient le mieux et pourquoi pas une le soir, une le matin,
ben oui,
et,
oui.
Ou l'après-midi, enfin, à chacun son plaisir de se doucher, mais n'oublions pas de laver nos draps et têtes d'oreiller au moins une fois par semaine.
Régulièrement. Oui, parce que moi, quand je prends ma douche le soir, mes cheveux sont pas beaux le lendemain matin.
Je peux vous dire que ça m'arrive aussi, mais l'été, il n'est pas rare que je prenne une douche le soir et le matin.
Ben oui. Alors, on fait une mini-pause avant de parler d'apprentissage de langue.
Oui, tout à fait.
Alors, Mathieu, qu'est-ce que vous avez trouvé?
C'est Pierre Lapointe qui joue du satie.
C'est Pierre Lapointe?
Mm-hmm. La gnosienne numéro 1.
D'accord. De retour maintenant à Monique Kerouac, qui va nous parler d'apprentissage de langue.
Oui, exactement.
Je pensais que vous étiez sous la douche, là, vous. Hein?
Non, c'est parce que j'attendais que vous disiez.
Vous alliez ajouter. Vous pensiez qu'il y avait une question au bout de ça, vous, hein?
Alors, si vous hésitez lorsque vous devez parler à quelqu'un dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle, peut-être que vous pensez, j'ai tout simplement pas le don pour les langues ou je ne suis peut-être pas fait pour apprendre une autre langue. Mais apprendre à utiliser une langue autre que notre langue maternelle peut paraître un défi de taille. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est capable d'apprendre une autre langue. Une partie importante de ce processus consiste à développer un état d'esprit qui nous aidera à réussir. Alors, les chercheurs Zhang et Noels étudient la motivation des gens à apprendre de nouvelles langues du point de vue de la théorie de l'esprit linguistique. Peut-être vous demandez-vous, mais qu'est-ce que c'est que cette théorie de l'esprit linguistique?
Vous lisez dans mes pensées.
Alors, cette théorie montre que ce que les gens pensent de leur aptitude joue un rôle dans l'apprentissage des langues, et j'en rajouterais un rôle essentiel. Cette théorie concerne les croyances des apprenants quant à leur capacité à changer leur aptitude à apprendre et à utiliser les langues et la manière dont différentes croyances sont associées à différents résultats, y compris la maîtrise d'une langue. Si les apprenants pensent qu'ils peuvent améliorer leur capacité lorsqu'ils apprennent quelque chose de difficile dans une nouvelle langue ou lorsqu'ils n'ont pas obtenu de bons résultats dans certains aspects de l'apprentissage des langues, ils ne seront pas découragés par le fait que leur niveau actuel est faible.
Mmh.
Les apprenants peuvent même considérer ces difficultés ou ces échecs comme des occasions d'apprendre quelque chose de nouveau et d'améliorer leurs compétences linguistiques. Ils restent optimistes et confiants quant à ce qu'ils peuvent potentiellement accomplir dans l'apprentissage des langues. Ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leurs compétences linguistiques tout au long du processus d'apprentissage, plutôt que de simplement survivre à l'interaction, obtenir une bonne note ou faire mieux que les autres. Lorsque j'enseignais les langues secondes, Yvan, je comparais souvent l'apprentissage d'une langue à l'apprentissage d'un sport. Par exemple, le ski. Si je tombe jamais en ski, peut-être que je ne ferai pas beaucoup de progrès.
Oui, c'est vrai. Tout à fait. Bon.
Ça fait partie du jeu, quoi.
Oui, oui.
La théorie de l'état d'esprit linguistique, qui concerne donc les croyances des apprenants quant à leur aptitude à apprendre et à utiliser les langues, peut être divisée en trois types de points de vue. L'intelligence linguistique générale, qui correspond à la croyance d'une personne, qu'elle peut changer sa capacité à utiliser la langue parlée et écrite pour s'exprimer et communiquer avec les autres. Les croyances concernant leur aptitude à apprendre une nouvelle langue, puis les croyances concernant le lien entre leur capacité à apprendre une nouvelle langue et leur âge. Si une personne pense que ces trois types d'aptitudes linguistiques sont innées et immuables, elle peut être classée comme un apprenant ayant un état d'esprit fixe. Si elle estime pouvoir améliorer un ou plusieurs des aspects de ses aptitudes linguistiques, en particulier ses aptitudes à apprendre une deuxième langue, elle peut être considérée comme un apprenant ayant un état d'esprit de croissance. En fin de compte, les apprenants ayant un état d'esprit de croissance sont susceptibles de devenir plus compétents dans la langue qu'ils apprennent qu'une personne ayant un état d'esprit fixe. Non, je pense que c'est logique.
Hein? Ça, est-ce qu'on peut déterminer ça à l'avance ou...
C'est comme je vous disais, changer ses attitudes pour avoir l'aptitude à apprendre.
Mm-hmm.
Mais il y a des gens qui pensent que non, d'où ceux qui ont un état d'esprit fixe.
Oui, ça bouge plus.
Ça bouge plus. Alors, si on se dit, ah ben oui, je pourrais peut-être apprendre cette langue-là, puis c'est pas grave si je fais des erreurs, ben là, on est plutôt dans l'esprit de croissance, tout simplement.
Oui, oui, je comprends.
Alors, bien que les applications numériques telles que Duolingo soient de plus en plus utilisées, les cours de langue restent un moyen courant d'apprendre une langue et les enseignants de langue peuvent aider les apprenants à développer un état d'esprit orienté vers la croissance. Les enseignants peuvent aider en rappelant aux apprenants qu'ils peuvent améliorer leur intelligence linguistique grâce à leurs efforts. Ça ne s'apprend pas tout seul, une langue, hein? Mm-hmm. Et pas juste avec un livre devant soi ou la déclinaison des verbes, par exemple.
Sûrement, oui.
Pour les devoirs et les tests à faible enjeu, les enseignants peuvent encourager les apprenants à prendre des risques et à relever de nouveaux défis et à profiter de ces moments pour apprendre quelque chose de nouveau. Les enseignants doivent également fournir des commentaires axés sur le processus d'apprentissage. Par exemple, les types de stratégies que les apprenants pourraient utiliser s'ils doivent travailler davantage et les ressources qui pourraient leur être utiles pour apprendre la langue. De cette manière, les enseignants transmettent un message important. Ils nous disent qu'il est normal de faire des erreurs et ce que font les apprenants dans le processus d'apprentissage est plus important que leur niveau actuel. Même lorsque les apprenants sont confrontés à des examens importants, les enseignants peuvent les aider à faire le lien entre le contenu des examens et l'utilisation de la langue dans la communication réelle. Si les enseignants parviennent à créer un environnement de classe qui favorise un état d'esprit axé sur la croissance linguistique, les apprenants seront plus enclins à poursuivre leur apprentissage de la langue. Si vous êtes un apprenant en langue et que vous pensez que vos aptitudes linguistiques sont fixes, il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Voilà une des réponses à votre question.
Oui, tout à fait, oui.
Chaque fois que vous maîtrisez un nouveau mot, vous acquérez une nouvelle notion grammaticale et que vous acquérez une nouvelle notion grammaticale et ou que vous parvenez simplement à faire passer votre message à une autre personne dans la langue que vous apprenez, vous progressez et surtout vous en êtes super heureux.
Oui, il y a une fierté, oui.
Oui, c'est ça. Si vous avez du mal à apprendre un aspect particulier de la langue, essayez d'utiliser une stratégie d'apprentissage différente. Trouvez des ressources qui peuvent vous aider ou accordez-vous simplement plus de temps pour pratiquer. N'oubliez pas que tout le monde est capable d'apprendre une nouvelle langue. Tout est une question d'état d'esprit linguistique.
Oui. Et si c'est possible de se trouver un nouvel ami ou une nouvelle amie dans une autre langue, ou même un amoureux ou une amoureuse?
Ah, c'est certainement la façon la plus efficace.
Un gros incitatif à ce moment-là.
C'est un gros incitatif, mais il ne faut pas qu'il y ait de tension. Hein. C'est ça le plus important.
Voilà. Alors, on fait une petite pause. Et avec Monique, on va faire quelques brèves. Pour moi, Monique, l'art est presque toujours abstrait en passant.
Ah oui! Oh, palais! L'art abstrait, c'est ce qu'on appelle la part du spectateur. Alors, face à des figures abstraites, notre cerveau complète ce que nous voyons. C'est lui qui donne son sens à l'œuvre d'art.
Ah!
Peut-être que c'est pas votre cas, mais généralement, cette vieille idée, en fait, ça date du 17e siècle et elle est aujourd'hui démontrée, Yvan, grâce à une vaste expérience d'imagerie cérébrale menée par des neuroscientifiques de l'Université Columbia. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont présenté 82 paires de tableaux à 30 personnes en proposant chaque fois une œuvre figurative. Ça, vous devez les comprendre.
Ça va bien.
Et une œuvre abstraite du même artiste. Puis, ils leur ont demandé d'écrire une légende pour chacune, tout en scrutant comment réagissait leur cerveau. Résultat, si tout le monde s'accorde sur ce que représente une œuvre figurative, dans le cas des œuvres abstraites, ben là, les interprétations, c'est à peu près normal, là, partent tous azimuts. Mm-hmm. Et les aires cérébrales elles-mêmes s'activent différemment. En particulier, celle dite du mode par défaut. Alors ça, c'est face à l'œuvre abstraite, où se niche notre intériorité, la narration individuelle, la construction du sens et notre propre créativité. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. On voit ce que l'on voit, tout simplement.
Non, mais je ne suis pas vraiment inquiet, mais c'est souvent un peu difficile pour moi de comprendre.
Mais il ne faut pas comprendre, il faut ressentir, Yvan.
Oui, je vais garder ça en tête. Je m'en vais à Québec bientôt, là. Je vais garder ça en tête.
Oui, ça sera bien.
Alors, l'autre question que vous soulevez en bref, j'ai eu une certaine perplexité. J'ai essayé toutes sortes de visages.
Ah oui, OK.
Oui, imite-t-on mieux le dégoût que le délice?
Ben, est-ce qu'on peut... En fait, la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment, par politesse, faire semblant de se régaler en se forçant à manger quelque chose qui nous dégoûte.
Ah oui, ça, je peux.
Alors, selon un trio de chercheuses japonaises qui a approfondi la question, la réponse est oui. Bon, alors vous êtes en harmonie. Oui. Mais l'inverse marche encore mieux. Une fausse moue dégoûtée est même plus convaincante qu'une vraie.
Ah oui?
Oui. Alors, six étudiants mobilisés pour l'expérience devaient singer tour à tour les deux types d'expressions, en buvant quelque chose qu'ils adorent, puis quelque chose qu'ils détestent. 33 autres étudiants et une intelligence artificielle devaient ensuite évaluer leurs expressions faciales sur une échelle de 0 à 100 et deviner si la boisson était bonne ou non. Humains et machines sont d'accord. Les fausses expressions de dégoût ont l'air plus authentiques.
Oh, oui.
Oui. Aucune différence notable, en revanche, entre une vraie et une fausse expression de délice. Voilà!
Bon, je retiens
c'est
ça.
C'est fascinant, ce sur quoi les chercheurs peuvent se pencher.
Oui, ils se lèvent le matin et disent « Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? » Oui,
c'est ça. Mais il ne faut pas oublier, c'est parfois des neuropsychologues, neuroscientifiques.
Je comprends. Et on termine cette conversation avec la capsule linguistique.
Oui. Alors, est-ce que tous les pléonasmes sont-ils tous vicieux?
Bon, on peut les rendre, oui.
Oui, c'est ça. Mais le pléonasme, il faut se rappeler, Yvan, c'est la répétition, volontaire ou non, d'une information déjà énoncée dans la même phrase. Mm-hmm. Ça peut être une figure de style qui sert à créer un effet d'insistance, par exemple. Il est tout à fait correct de dire « je l'ai vu de mes propres yeux ». En revanche, un pléonasme est dit vicieux lorsqu'il n'ajoute rien à la force de l'expression et qui ne fait qu'annourdir la phrase. Le classique, monter en haut, oui. Descendre en bas.
Oui.
Hein? Ce sont vraiment des pléonasmes vicieux. On pourrait aussi parler d'un pléonasme lorsqu'on parle d'une brève allocution. Parce que par définition, une allocution, c'est un discours bref. Donc, au lieu de dire que le ministre a prononcé une brève allocution, il suffit tout simplement de dire qu'il a prononcé une allocution. Si on veut contourner le problème, ben on peut juste dire « le ministre s'est brièvement adressé à l'auditoire ».
Oh mon Dieu, ben oui.
C'était pas trop vicieux, hein?
Non, non, ça allait. Mais je fais de l'activité physique. Ben ça, vous savez, ça, je fais de l'activité physique. Mais je fais du spinning et c'est souvent des animatrices qui ont toujours le même réflexe de dire, pour se lever sur nos pédales,
oui.
Elle nous dit « on se lève debout ».
Ah oui.
Là, dans ma tête, j'ai toujours « mais on peut-tu se lever autrement? »
Ah oui, c'est ça. Voilà un bel exemple de pléonasme vicieux.
Merci beaucoup, Monique Kirouac. Est-ce qu'on se reparle cet été, je crois?
Écoutez, moi, je prends une pause. Je reviens le 14 août.
D'accord. Alors, peut-être. On verra.
D'accord. Alors, bonnes vacances.
Merci. Alors, c'est la dernière pause de l'émission. Au retour, on reparle avec Yannick Richard.